BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Thomas Asportas, Good Evening Business.
19h sur BFM Business, bonsoir, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans la deuxième heure de Good Evening. On est en direct jusqu'à 20h avec Audrey Tcherkov. Bonsoir Audrey.
Rebonsoir Thomas et rebonsoir à tous.
Alors dans l'actualité ce soir, on a ce tacle, on va dire ça comme ça, la Banque de France à Emmanuel Macron. Il faut arrêter de croire que la croissance va régler elle seule, par magie, nos problèmes de finances publiques. C'est le message clé de la lettre du gouverneur au président de la République, qui a sûrement dû apprécier le message. On va décortiquer tout ça ce soir avec nos experts, Audrey.
Oui, on vous parle aussi du monde qui se réarme à vitesse grand V. Alors, vous allez me dire que ce n'est pas un scoop, évidemment, avec les guerres que vous connaissez, notamment en Ukraine et puis en Israël. Mais les chiffres publiés ce matin par le CIPRI sont quand même très impressionnants, avec des hausses d'investissement jamais vues depuis 15 ans. Et puis, au même moment, eh bien, la transition énergétique, elle marque le pas. On en parle à l'occasion du congrès mondial de l'énergie qui ouvre ses portes aujourd'hui aux Pays-Bas.
Et pour débattre ce soir, nos experts, Nathalie Janson, professeur à Neoma Business School, Erwan Leno, en consultant en stratégie chez Altermind, et Henri Sterdignac, économiste à l'OFCE. On y va ?
Et tout de suite, c'est le journal.
Votre rendez-vous avec Sage. Sage, la gestion intelligente qui réinvente la finance.
Good Evening Business, le journal.
Et on commence donc avec la lettre annuelle du gouverneur de la Banque de France au président de la République. Bonsoir Alexandra Pagé. Les temps ont changé visiblement Alexandra, puisque les lettres de 2022 et de 2023 étaient consacrées, on s'en souvient, à la lutte contre l'inflation, alors que celle de cette année appelle à rétablir d'urgence les comptes publics, Alexandra.
Exactement Thomas, d'abord un constat en forme qui sonne comme une sonnette d'alarme, croire que la croissance seule réussira à lutter contre les déficits est un vœu pieux, une illusion. La France fait désormais partie du club peu prisé des mauvais élèves de l'Union Européenne avec un déficit creusé à 5,5% du PIB l'an dernier. Alors François Villeroy de Gallo le martèle, pour parvenir à maîtriser la dette publique, il faut commencer par s'attaquer aux dépenses avec un objectif raisonnable, stabiliser en volume les dépenses publiques. Alors la question c'est comment ? Alors que le gouvernement refuse de décider de nouvelles baisses d'impôts générales, le gouverneur de la Banque de France estime, lui, qu'il ne faut pas avoir de tabou en termes de fiscalité. D'une part, la France n'a pas les moyens de conduire de nouvelles baisses d'impôts non financées comme c'est prévu, c'est-à-dire la CVAE pour les entreprises et les 2 milliards d'euros prévus pour les classes moyennes. D'autre part, on peut envisager d'élargir l'assiette de certains impôts sur les ménages et les entreprises et de revoir certaines niches, Thomas. En clair, envisager certaines hausses d'impôts ciblées.
Merci beaucoup Alexandra. Des hausses d'impôts, on verra, on sera fixé à l'automne dans le prochain budget. Des économies, c'est sûr, ça, il va falloir en faire, et notamment pour financer l'effort de guerre. Et on apprend aujourd'hui que les dépenses militaires ont battu tous les records l'an dernier à plus de 2400 milliards de dollars. C'est la hausse des dépenses d'investissement en armement la plus élevée depuis 2009. Jean-Baptiste Huette.
Plus de 2400 milliards de dollars de dépenses militaires l'an dernier. En progression de 6,8%, il s'agit là de la plus forte augmentation d'une année sur l'autre en 15 ans. Sans surprise, cette augmentation est directement liée au contexte de guerre et aux fortes tensions géopolitiques. Les États-Unis, la Chine et la Russie sont en tête du classement. Ce qui frappe, c'est l'écart entre le premier et le deuxième. Washington a mis plus de 916 milliards de dollars sur la table et Pékin environ 280 milliards. La France, de son côté, se classe 9e avec 61 milliards de dollars de dépenses militaires. Amérique, Europe, Asie, Océanie, toutes les zones sont en augmentation. Le Moyen-Orient également. Les dépenses militaires atteignent là-bas 200 milliards de dollars en hausse de 9%. Une forte augmentation des dépenses, hein, explique le CIPRI, qui reflète l'évolution rapide du contexte régional. On est passé d'un réchauffement des relations diplomatiques entre Israël et plusieurs pays arabes ces dernières années au déclenchement d'une guerre d'ampleur à Gaza et aux craintes maintenant d'un conflit à l'échelle régionale.
Jean-Baptiste Huette, 19h04. On part en Allemagne avec l'ouverture aujourd'hui de la foire de Hanovre, le grand rendez-vous annuel de l'industrie allemande. Et le pays place beaucoup d'espoir dans cette édition 2024, au moment où son économie est en berne. Sur place pour BFM Business, notre correspondante en Allemagne, Salomé Hénin-Cohen.
La foire d'Hanovre, qui existe depuis 1947, c'est l'industrie du numérique, des nouvelles technologies, de la mécanique et de l'énergie, toutes réunies sous le même toit, et ce, pendant 5 jours. Au programme de cette édition 2024, numérisation, automatisation des processus de production ou encore intelligence artificielle et surtout développement de l'hydrogène. La foire a d'ailleurs choisi la Norvège comme pays partenaire, leader dans le domaine. Oslo pourrait fournir de grandes quantités d'hydrogène vert dans les prochaines années à l'industrie sidérurgique allemande qui en aura grandement besoin. Sont attendues aussi les entreprises allemandes comme Siemens, Bosch ou encore Volkswagen, mais ce sont probablement les mots du chancelier Scholz qui devraient marquer cette édition 2024, alors que l'économie allemande traverse une phase assez difficile. Dans son dernier rapport, la Bundesbank ne voit d'ailleurs pas de signe significatif de reprise de l'économie, malgré un premier trimestre encourageant. Mais ici, on espère tout de même que cela sonnera la fin du ralentissement après plus d'un an de stagnation.
Salomé et non Cohen sur place en Allemagne pour BFM Business. 19h06 dans l'actualité des entreprises. C'est une nouvelle semaine décisive qui s'ouvre pour l'avenir d'Atos, puisque l'entreprise présentera vendredi les offres reçues pour son sauvetage. Son premier actionnaire Winepoint développera et dévoilera la sienne dès mercredi. Et puis en parallèle de ça, l'État étudie la possibilité d'entrer au capital de BDS. Derrière ces trois lettres se cachent les activités sensibles de défense nationale d'Atos. Mathieu Pechberti.
C'est une petite société d'Atos qui concentre l'attention du gouvernement. MCS pour Mission Critical System est au cœur de la défense nationale. Elle s'occupe du combat aérien des Rafales, des écoutes de la DGSE ou encore de la simulation des missiles de l'armée. Le ministère de l'économie a déjà négocié une action spécifique et des droits de gouvernance pour protéger MCS. Mais selon nos informations, il réfléchit à aller plus loin et étudie une prise de participation minoritaire au capital de BDS, la division qui contient MCS, ainsi que les supercalculateurs et la cybersécurité d'Atos. Le groupe n'y est pas favorable et brandit déjà la facture. Il en coûterait 180 millions d'euros à l'État pour prendre seulement 10% de cette branche, valorisée 1,8 milliard d'euros lorsqu'Airbus a failli la racheter au mois de février. L'État a déjà essayé d'intervenir par l'intermédiaire de Thales, dont il détient 26%. Selon nos informations, le groupe de défense a déjà approché Atos en début d'année pour lui racheter sa petite société MCS, mais il a été conduit.
Mathieu Pechberti. Et puis pour finir, on va parler de nos routes et de nos autoroutes. Puisque vous le savez, l'autoroute A13 est fermée depuis vendredi. Elle est toujours fermée. On espère sa réouverture cette semaine. Fermeture liée à des fissures allant jusqu'à 80 cm de profondeur. Ça pose évidemment la question de notre réseau routier, de nos routes françaises. Et le constat est clair, malheureusement. Le réseau s'est dégradé d'année en année avec de grosses insuffisances d'investissement. On fait le point avec Timothée Marozet.
La France était en 2012 en tête du classement mondial sur la qualité des infrastructures routières. 7 ans plus tard, elle dégringole à la 18e place. Pourtant, elle détient le réseau routier le plus dense d'Europe. Il s'étend sur 1,1 million de kilomètres. Raison pointée de ce déclassement, la décentralisation et la gestion des routes confiées aux départements et aux communes. Depuis 20 ans, les effectifs du réseau scientifique et technique de l'État ont été divisés par deux. Et dans un rapport de 2022, la Cour des comptes pointe également un suivi insuffisant de l'état des routes. Côté investissement, même si les enveloppes sont passées de 775 millions d'euros en 2016 à 1 milliard d'euros par an à partir de cette année, tout cela reste encore très insuffisant pour la Cour des comptes. C'est un véritable choc d'investissement qui est nécessaire, plaide de son côté la Fédération nationale des travaux publics. Des sommes colossales, indispensables pour faire face au défi du réchauffement climatique qui soumet le réseau routier à une extrême vulnérabilité.
Timothée Marozet, 19h09, on retourne sur les marchés. Les marchés, je vous redonne la clôture du CAC à Euronext, première séance de la semaine en hausse. On gagne 0,22% à 8040 points. Rebonsoir. 40 points, pas du tout, 40 points, 8040 points. Rebonsoir, Rodker Sulek.
Bonsoir.
Comment ça se passe à Wall Street?
Eh bien, ça monte, on remonte de 0,4% pour le Dow Jones et le S&P et le Nasdaq prend lui 0,3%. Alors, on tente le rebond après la semaine passée qui a quand même été assez horrible, notamment le Nasdaq qui a perdu 5,5%, le S&P 3%, la faute notamment aux valeurs technologiques qui baissaient beaucoup. À l'image de Nvidia, on perdait 10% vendredi. Là, on se reprend, le titre est en hausse de 2%. Alors, il y a eu évidemment la montée des taux obligataires la semaine passée. Les gouverneurs aussi de la Réserve fédérale qui étaient nombreux à s'exprimer, qui disaient qu'on n'allait pas baisser les taux tout de suite. Il faut savoir que cette semaine, on ne les entendra pas puisqu'ils se réunissent dans 8 jours et ils sont en période de blackout. Et puis, on a également des valeurs qui baissent. Un Tesla, la coupe des prix annoncée ce week-end. Vous savez, dans beaucoup de pays, dont la France, la Chine, ouais. Eh bien, ça ne plaît pas aux investisseurs qui craignent cette guerre des prix. Le titre perd encore 4%. Il en baisse de 43%. 10% depuis le début de l'année. Et puis une entreprise qui publiait aujourd'hui, une des seules à publier aujourd'hui, c'était Verizon. Là aussi, on est dans la tech. On a manqué tout juste les estimations de chiffre d'affaires. C'est largement sanctionné. On perd aussi 4%. Voilà, grosse semaine de résultats. On va avoir 4 des 7 magnifiques qui vont publier. Ça commencera demain avec Tesla. Et puis on aura ensuite Google, Alphabet ou encore Meta.
Bon, une semaine sur les marchés animés par les résultats d'entreprises et pas n'importe lesquels. Merci beaucoup, Odd Kersulec. 19h10, on marque une pause et on retrouve Audrey Tcherkov et nos experts. On est en direct jusqu'à 20h. A tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Les experts du soir sont là. On est en direct jusqu'à 20h avec Audrey Tcherkov.
Rebonsoir.
Rebonsoir, Audrey. Bonsoir. Erwan, consultant en stratégie chez Altermind. Face à vous, Henri Sterdignac, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste à l'OFCE. Et puis Nathalie Janson qui
est en rejoindre.
Mais voilà. Oui, elle arrive d'une seconde à l'autre. Un peu d'indulgence et de patience, messieurs. On commence quand même avec la lettre annuelle. C'est un rituel en France du gouverneur de la Banque de France au président de la République pour lui donner ses conseils, sa feuille de route économique et budgétaire. J'ai retenu cette phrase qui ressemble quand même dans la bouche d'un gouverneur de banque centrale à un tacle, on va dire ça comme ça. Il faut sortir de l'illusion que la croissance va régler à elle seule nos problèmes de finances publiques. Ça, pour le coup, c'est mot pour mot la stratégie d'Emmanuel Macron. Et le gouverneur dit que ça ne marche pas, Henri Sterdignac.
C'est exagéré. Bien sûr, si on a de la croissance, ça permettra en partie de résoudre notre problème de déficit public. Si on a 2 points d'activité, ben c'est un point de déficit public en moins. Donc, ce n'est pas négligeable.
Ça, c'est automatique, ça.
C'est automatique.
Non, mais d'accord, c'est pas négligeable. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que tout miser sur la croissance ne suffira pas. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, mais personne n'a jamais dit que tout miser sur la croissance suffirait, bien que
le président dit que c'est
alléger
essentiel.
Une partie importante du problème.
Oui.
On a, grosso modo, 2 points de déficit de trop. S'il y en a 1 point qui est allégé par la croissance,
c'est
et
mieux.
1 point par le fait qu'on va pouvoir réduire les subventions liées au prix de l'énergie, c'est déjà pas mal. Ensuite, ça réduit quand même en grande partie le problème. Ça ne suffit pas, bien sûr.
Non,
non mais le président de la République dit que c'est l'essentiel du chemin. Il dit si on a de la croissance et un plein emploi comme en Allemagne, il n'y a plus de problème de finances publiques.
Oui, mais...
Vous voyez bien, c'est ça qu'il répète à longueur de journée, beaucoup plus que de parler d'économie.
Ah ben oui, d'accord. Avec le plein emploi, effectivement, on n'aurait pas de problème de dépenses publiques. Le tout, c'est d'atteindre le plein emploi.
Le tout, comme vous dites.
Erwan, avec 20 milliards d'euros à trouver, on est bien d'accord qu'il n'y a pas un seul pays au monde qui dépense autant d'argent public rapporté à son PIB. Donc, on est obligé de passer par un plan d'économie de la dépense, de simplifier l'action publique et de la rendre plus efficace.
Oui, c'est d'ailleurs ce qui est plus que dit François Villeroy dans sa lettre. C'est effectivement, il parle du fait que la croissance ne suffira pas. Il dit aussi qu'il faut prioriser les dépenses. Et c'est d'ailleurs, il insiste beaucoup là-dessus. Il dit le cœur du sujet, c'est quelles sont les priorités de nos dépenses publiques. Il faut revoir l'ensemble des dépenses publiques. Et c'est là où effectivement, je pense qu'il pointe le doigt. Et c'est là où on attend le gouvernement. Pourquoi est-ce que le gouvernement a commencé au départ, Gabriel Attal, un peu avait dit on a un problème de finances publiques. On a compris que ça a été considéré comme étant un peu trop anxiogène à l'approche des élections. Parce que tout le monde y a entendu la musique de fond qui était il va falloir baisser les dépenses et probablement peut-être aussi augmenter les impôts. C'est pour ça que le message sur la croissance est revenu en avant. Mais je pense que personne au gouvernement de sérieux, et c'est plutôt des gens sérieux en la matière, ne pense que la croissance va résoudre les problèmes de déficit public, de dette publique, ni de rationalisation de la dépense publique.
Nathalie Janson, puisque vous êtes arrivée en retard, c'est à vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
On vous accueille avec plaisir.
Est-ce que vous dites, Nathalie, qu'il y a une lueur d'espoir? Parce que, pardon, mais pour le moment, les réformes structurelles, on n'en voit pas la lueur. La réforme de l'État, la révision du statut de la fonction publique, le fameux système des retraites qui finalement ne fonctionne pas, on ne s'attaque pas à ce qui pourrait apporter beaucoup d'argent et à ce qui pose problème.
Non, mais effectivement, et ça fait, bon, c'est pas nouveau comme problème.
problème, sauf que là, ça devient pressant. Donc, on l'a déjà répété plusieurs fois. Effectivement, il y a vraiment un problème de vision sur ce que devrait faire l'État, d'être beaucoup plus clair, puisqu'on a fait, du en même temps, on a beaucoup dépensé. Donc, maintenant, le message est brouillé. Ça fait longtemps qu'il est brouillé, mais là, disons qu'on s'était un petit peu enfoncé avec toutes les périodes qu'on a eues. Et là, en fait, ça fait longtemps qu'effectivement, il faut avoir une vision de l'État qui n'est pas là. Enfin, en fait, voilà, il n'y a pas eu. Et de toute façon, Emmanuel Macron n'a pas eu cette ambition. Et c'est dommage parce qu'un deuxième quinquennat, on peut tenter.
Voilà, c'est ce que disait tout à l'aventure.
Emmanuel Le Chypre, sur cette chaise, vous êtes habité par l'esprit d'Emmanuel.
Alors, Emmanuel m'a inspiré. Mais c'est clair que dans un deuxième mandat, on s'attend. Enfin, on peut prendre des risques. De toute façon, au pire, on ne risque plus rien du tout.
On n'est pas réélu.
Et c'est vrai que c'est très, très dommage qu'il n'ait pas eu ça en ligne de mire, puisque je ne vois pas quel autre gouvernement va s'y atteler.
Alors, Henri Sterdignac.
Au départ, il avait quand même une ambition qui était la politique de l'offre.
Oui, mais c'est pas suffisant.
Il y avait quand même l'idée, en baissant fortement les impôts sur les plus riches et sur les entreprises, ça allait impulser la croissance et ça allait financer cette réduction d'impôts. Ouais. Donc, au total, il a réduit les impôts d'environ 70 milliards d'euros, mais il n'a pas eu l'effet sur la croissance.
Non,
et on peut discuter ensuite. Est-ce que c'est une erreur de diagnostic ou est-ce qu'il n'a pas eu de chance avec le Covid?
Ça a fonctionné, cette politique de l'offre, dans la mesure où on a eu un nombre historique de création d'emplois. Sauf que ça ne s'est pas traduit dans la croissance parce qu'on a ce grand problème de productivité. Erwan.
Et puis, moi, j'allais revenir sur la dépense publique, parce que je pense qu'un point important, c'est que c'est un sujet économique, mais c'est aussi, aujourd'hui, dans notre pays, un sujet politique. Mmh. Pourquoi est-ce que l'extrême droite est aussi forte? Pourquoi est-ce que l'extrême gauche est forte en France? Parce qu'un grand nombre de Français ont l'impression qu'on a beau, leur prélever de l'argent, deux, en dépenser beaucoup, les politiques publiques ne sont pas efficaces, ne leur offrent pas de services publics de qualité.
Ah, bah ça, même la majorité le reconnaît. Voilà,
l'école s'effondre.
On a commencé par Gabriel Attal. On n'en a pas pour ses impôts, formule.
Exactement, mais si derrière il n'y a pas la priorité de la réforme de l'État, ça peut être une question économique. Moi je pense que c'est d'abord une question politique. On ne fera pas baisser les extrêmes dans ce pays tant qu'on aura un État qui est aussi inefficace et qu'on ne permet pas de redonner de la mobilité sociale dans le pays. Ça passe par effectivement prioriser les dépenses publiques. On pourrait même se dire, gardons le même niveau de dépenses publiques, mais assurons-nous que ce qu'on dépense est efficace.
C'est ce que dit le gouverneur d'ailleurs. Il faut qu'on arrive à stabiliser en volume, la dépense publique. Il dit même pas qu'il faut faire de l'austérité, il dit juste stabilisons la dépense.
Mais stabiliser en volume les dépenses publiques, c'est déjà dans le pacte de stabilité
qui est pas respecté.
Que nous venons d'envoyer à Bruxelles.
Donc
c'est pas une découverte. Ensuite, se pose la question comment il va faire compte tenu de tous les besoins qui existent, le fait que la population vieillit, le fait qu'on a besoin d'argent pour la transition écologique. Donc on peut dire c'est quand même une promesse de Gaston, sachant qu'il n'y a pas dans le programme de stabilité
la manière de les
économies. Et pour revenir sur votre question, ce qui a fait les emplois, c'est un miracle. C'est la chute de la productivité, miracle si on peut dire. Ouais. Mais c'est surtout le fait qu'effectivement, le gouvernement a créé des postes d'apprentissage qui créent de l'emploi, mais pas de production. Qu'on a fait des emplois bas de gamme qui ont un impact sur la productivité, sur la production faible. C'est ça le miracle Macron, peut-on dire.
Mais alors, Erwan disait, alors peut-être à juste titre, que ce sont des gens qui sont très sérieux au gouvernement, qui sont en charge de mettre en place les budgets, etc. Mais quand on voit, qu'est-ce qui se passe depuis le 1er janvier 2024? On sort deux fois du chapeau 10 milliards d'euros à trouver comme ça, alors que fin décembre, pour fêter Noël, on nous annonçait que tout allait bien. Mais ça manque quand même de sérieux. Enfin, on ne peut pas dire que le budget n'a pas été fait sur une base insincère.
Mais il y a deux choses, je pense. Est-ce que les personnes qu'on a aujourd'hui au gouvernement sont des formations technocrates qui leur permettent de bien comprendre comment on fonctionne les finances publiques? Oui. Est-ce qu'ils savent que quand ils font des annonces, ça n'est probablement pas crédible? Aussi. Je rappelle que le rapport Pébro de 2004 ou 2005, je crois, sur la dette publique, avait un titre, c'était pour rompre avec la facilité de la dépense publique. Et ça nous disait à l'époque, il est plus simple pour un gouvernement d'annoncer des dépenses que d'engager des vraies réformes. Ce gouvernement, mais comme les précédents, sont est exactement dans la même dynamique.
Ouais. Il y a aussi la question de savoir si c'est le bon moment pour faire des économies, puisque la croissance est faible. Et là-dessus, pour le coup, le gouverneur vous répond, l'OFCE. Vous avez publié une étude il y a une dizaine de jours pour dire que les économies auraient un effet partiellement récessif.
Oui.
Le gouverneur dit que ce serait très modéré comme effet. Vous n'êtes pas là pour le coup, il y a
Je ne sais pas comment le gouverneur le sait.
Donc, le gouverneur,
quoi, alors, il a quelques données quand même.
Le gouverneur peut toujours le dire. Le problème, c'est quels sont les arguments dessous. Le problème, c'est bon, le gouvernement, si le gouverneur disait je vais baisser massivement les taux d'intérêt, donc vous pouvez réduire les dépenses publiques parce que il y aura une compensation par la baisse des taux d'intérêt de votre baisse des dépenses publiques, ce serait crédible, mais on n'est pas dans cette. On n'est pas dans cette optique, donc on voit mal quels sont les arguments précis du gouvernement. Par ailleurs, ce qui est bien sûr choquant, c'est que on nous dit on va réduire de 10 milliards les dépenses publiques, alors que les contribuables pouvaient penser que quand même les dépenses publiques avaient été pensées, qu'elles étaient utiles, et que brusquement, on s'aperçoit qu'il y en avait finalement 10 milliards de trop qu'on peut éliminer sans problème.
Et surtout,
c'est quand même pas très sérieux.
Surtout que, Henri, on rogne sur les dépenses d'avenir, on rogne sur l'éducation, on rogne sur la transition écologique. Et puisque Thomas parlait de l'OFCE, on illustre quand même le dernier chiffre. Vous dites qu'en 2024, la croissance, c'est 0,5%.
Oui, mais...
Non, mais ça fait mal quand même.
D'accord, mais c'est 1% moins les politiques budgétaires mises en œuvre.
Oui, voilà,
ça fait 0,5%.
1%, c'est l'objectif du gouvernement, et vous dites que les économies,
ça fait 0,5% de moins. Ça fait, donc on arrive à 0,5%. Alors, bon, ça sera 0,5 ou 0,7, il y a quand même déjà beaucoup d'acquis. Et voilà, donc...
L'un des moteurs de la croissance cette année, ce serait la poursuite des baisses d'impôts, même s'il en reste beaucoup plus. Et là aussi, le gouverneur dit qu'on n'a plus les moyens de baisser les impôts. Ça aussi, il fait un peu de politique. Il dit les 2 milliards de baisse sur le revenu pour les ménages, stop.
Et la CVAE,
stop, on n'a plus les moyens de baisser les impôts en France. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter les baisses d'impôts? Ou se dire que c'est un investissement sur l'avenir et que ça paiera plus tard?
Le problème, c'est comme là où on parlait de l'éducation, où en fait on rogne sur les dépenses. Si on faisait des réformes qui accompagnent, on ne baisserait pas forcément la qualité. Le problème, c'est qu'on a toujours le même système et on baisse les dépenses. Parce qu'il y a plein de choses à faire dans l'éducation. Il peut y avoir... En plus, on a été plombé par un beau rapport sur l'école privée qui a été mal ficelée et en plus qui met en exergue que, soi-disant, l'école privée fonctionnerait pas bien, serait chère.
Le rapport disait qu'il n'y avait pas de contrôle. L'absence de contrôle.
Oui, enfin bon, bref.
Bon, mais c'est pas
passons
sujet.
Là-dessus, c'est pas le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous baissez les dépenses et vous changez rien, effectivement, il y a peu de chances qu'il y ait des miracles. Et donc, effectivement.
Non, mais sur les baisses d'impôts, est-ce qu'il faut tenir sur les baisses d'impôts?
Oui, les impôts, oui. Je veux dire, par rapport à pouvoir poursuivre la dynamique économique et puis vouloir aller de l'avant sur l'offre, il faut, bien sûr, qu'il y ait surtout les impôts de production.
Oui.
Je pense que c'est quand même les premiers à pouvoir.
Non, mais parce que. Alors,
les 2 milliards sur l'impôt sur le revenu, c'est pas la peine. Personne ne les verra. Je veux dire, 2 milliards, c'est peanuts. Donc ça, on peut renoncer. La CVAE, les 4 milliards, on peut effectivement...
3 milliards, non.
Les 3 milliards qui restent, on peut effectivement se permettre de les supprimer. Et puis, effectivement...
Ah, donc on supprime.
On peut, oui.
C'est 1 milliard par an.
C'est 1 milliard par an, c'est
quand même urgent.
Même aujourd'hui, on peut le faire.
Ça arrêtera un argument. C'est pas avec ça qu'on fera de la compétitivité.
Ah bah si, forcément, un peu.
Si ça sert à rien, autant les garder.
Oui, c'est ça.
C'est 3 milliards, c'est 3 milliards sur un montant de 2000 milliards de production des entreprises. Ça va nous faire 0,...
Oui, d'accord, mais au moment où on doit réindustrialiser, reprendre des parts de marché à l'échelle internationale...
La question, c'est effectivement, est-ce qu'il ne vaut pas mieux concentrer nos faibles moyens sur la transition écologique, sur la décarbonation, sur des choses qui existent, plutôt que donner 2 milliards qu'on ne verra pas.
Ouais, ça c'est sûr.
Erwan, une dernière précision, parce que depuis que la lettre est parue, on entend dire que François Villeroy de Galhau dirait qu'il est ouvert non seulement appel à un gel des baisses d'impôts, mais en plus est ouvert à d'autres augmentations.
Ben, ouais.
Je cite, aucune mesure fiscale réaliste ne sera à la mesure de la dérive des dépenses. Oui. En gros, oui. Il dit faut vraiment couper dans la dépense et après, si ça marche pas, on augmentera les impôts. Oui. Mais c'est vraiment, il est pas, la ligne de la lettre n'est pas du tout de plaider en faveur d'une augmentation d'impôts.
Mais en fait, ce que le gouverneur de la Banque de France fait, c'est qu'il pointe du doigt les dépenses de fonctionnement du gouvernement. Je rappelle que c'est le gouvernement le plus cher de la 5e. Oui, voilà, exactement.
Quelles dépenses de fonctionnement ?
Du gouvernement, Henri.
C'est quoi les dépenses de fonctionnement du gouvernement ?
Dans tout le sujet, la dépense publique, la dépense de l'État.
Bien sûr,
c'est pas les dépenses de fonctionnement du gouvernement.
Non, les dépenses de fonctionnement
de l'État. Des ministères qui sont censés d'ailleurs chacun produire une feuille de route pour proposer des économies. Et pour le moment, cette revue des dépenses, tant promise par Bruno Le Maire, on l'a pas encore.
On peut gagner. Le gouverneur nous dit quand même, je sais pas s'il donne le chiffre précisément, j'ai oublié, mais qu'on peut gagner quand même 10 milliards en supprimant un certain nombre de niches fiscales inutiles.
Enfin, les niches fiscales.
Non, il dit qu'il ne faut pas avoir. Voilà, ce sera le mot. Il faut pas avoir de tabou. C'est le mot qu'il emploie, il est intéressant.
On peut gagner une dizaine de milliards.
Il y a des tabous en France sur les niches fiscales ?
Non, mais si la France était un paradis fiscal, ça se saurait, non ?
Oui, exactement. Il y en a un, c'est celui qui n'est pas un tabou, mais il y en a qui est un peu. Qu'on ne veut pas toucher, c'est celui, effectivement, du travail à domicile, parce qu'on sait très bien que si on le touche, il va y avoir un retour de travail au noir qui sera quand même assez considérable. Donc, ça, effectivement, il vaut mieux y penser une fois, mais à nouveau, c'est toujours pareil. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas que en baissant des impôts, il y a aussi le fait d'enlever les carcans réglementaires. Enfin, je veux dire, on peut penser, comme le dit souvent Emmanuel Combes, qui est très bon sur la concurrence. Je veux dire,
il faut aussi agir sur la
concurrence, rendre les secteurs.
Mais ça, Nathalie, c'est la grande promesse, du gouvernement, de simplification.
Oui, et ça c'est pas fait. Donc,
plus que deux jours à attendre, le projet de loi sera présenté mercredi.
On en reparle mercredi,
Bruno Le Maire.
Mais c'est vrai que ça coûte pas d'argent, par exemple.
Et Erwan,
c'est censé en faire économiser.
Oui, bien sûr. Bah, il est censé ouvrir à la concurrence, surtout.
Voilà. Erwan, non ?
Non, pardon.
Faut pas s'excuser. Allez, 19h30, je vous redonne les principaux titres de l'actu et on poursuit le débat.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h33 sur BFM Business, nous sommes avec Nathalie Janson, Erwan Lenoine et Henri Sterdignac, avec des experts dissipés pendant la pub.
Mais disciplinés quand la caméra se rallume.
Alors justement, on parle maintenant de transition énergétique avec ce congrès mondial de l'énergie qui ouvre ses portes aujourd'hui aux Pays-Bas. Alors on voit depuis plusieurs mois, et c'est assez tragique, que la transition énergétique est largement mise à mal par le ralentissement de la conjoncture, et c'est illustré par cet exemple très concret. Aujourd'hui, avec Tesla qui baisse encore ses prix, Thomas en parlait durant le journal, alors baisse ses prix en France mais aussi en Allemagne et en Chine. Quand on voit ces difficultés, est-ce que ça vous inquiète quant au destin de manière générale de la voiture électrique, Nathalie ?
Moi, pas tant que ça. Je trouve que d'abord, on ne sait pas si ça sera vraiment la solution de l'avenir. Voilà, ça a peut-être été une étape intermédiaire, on verra. Moi, ce que je trouve bien, c'est que effectivement, alors bon, c'est vrai que les Chinois ont mis le paquet, donc c'est pour ça que Tesla, sans doute, doit aussi mettre le paquet. Donc maintenant, Elon Musk, après avoir su ce que c'était que d'avoir l'avantage du premier arrivé avec en gagnant un pari que tout le monde, venant d'un milieu où j'entends beaucoup parler d'automobile, moi je me rappelle de l'arrivée d'Elon Musk, c'était non mais il n'y arrivera jamais, il ne passera pas la barrière industrielle.
Ça ne marchera jamais.
C'est vrai, exactement. Donc, bon,
comme disait un certain constructeur français.
C'est sympa d'avoir vu qu'il y est arrivé et puis là, il se retrouve face à de la concurrence et voilà, et il expérimente les trucs basiques en économie, c'est-à-dire que j'ai de la concurrence, donc je baisse le prix pour voir si mon élasticité, c'est-à-dire qu'effectivement, si ma demande répond, c'est-à-dire que c'est effectivement, je vais bien avoir des consommateurs qui vont rester avec moi et pas me quitter pour aller voir une autre marque.
Wall Street, il croit pas trop. Tesla perd encore 4% là cet après-midi depuis ses annonces.
C'est un autre pari. Enfin,
c'est dur.
Moi, je suis pas si inquiète que ça. Je pense qu'il y a des bonnes choses qui naîtront de ces de ces changements. Et de toute façon, on va quand même vers une nouvelle conception de la voiture. Donc, je suis pas si inquiète que ça. Par contre, effectivement, celui qu'on pensait avoir été le roi de la voiture électrique, finalement, c'est très bien. Je trouve que c'est un bon exemple de montrer que la concurrence, quand on a un avantage, il est il est souvent temporaire et pas forcément de longue durée.
Bon, après Emmanuel Combes, après Emmanuel Lechypre, c'est Emmanuel Combes qui a pris la possession du corps de Nathalie Janson. Non, mais au-delà du cas de Tesla, on a quand même un gros coup d'arrêt sur les ventes, à deux chiffres.
Oui. L'Allemagne aussi a beaucoup baissé, si je...
Comment on explique là vraiment ce coup de la panne, enfin sans mauvais jeu de mots, mais de la voiture
électrique ? C'est l'arrêt des subventions, je pense que c'est surtout...
C'est aussi bête que ça ?
Bah, l'Allemagne, c'est le cas, la France, c'est le cas. Le fait que les consommateurs, visiblement, sans subvention, ça demeure compliqué à acheter, quoi.
Non, mais c'est vrai, c'est quand même intéressant, parce que quand on regarde le calendrier, Thomas, quand la Norvège décide d'arrêter les subventions, un mois après, c'est moins 75% d'achats de voitures électriques en moins. Donc c'est forcément lié, les ventes baissent parce que les subventions baissent, Erwan.
Oui, mais moi je rejoins absolument ce que disait Nathalie. On est sur des marchés qui n'ont pas encore complètement non plus trouvé leur équilibre concurrentiel et où en partie la demande, la offre pardon, et aussi la demande sont solvabilisées par des actions publiques. Et donc quand elles s'arrêtent, ces aides publiques, ça permet de voir exactement, de ramener le marché vers une forme de réalité qui est parfois difficile, qui est que effectivement il y a d'autres producteurs qui peuvent être compétitifs. Alors dans le cas chinois eux-mêmes, probablement... Je ne connais pas assez le secteur chinois, mais fortement subventionné. Et dans le cas de la demande des consommateurs qui n'ont pas toujours les moyens d'investir dans des véhicules électriques. Mais je pense que c'est le défi général au demeurant de la transition écologique aujourd'hui. C'est-à-dire, comment on rend l'offre compétitive et comment on solvabilise la demande.
Mais alors, est-ce que c'est ça la question, Henri Sterniniac ? Est-ce que la transition écologique pèse encore trop lourd aujourd'hui dans le budget des ménages moyens, des classes moyennes et des ménages les plus modestes ?
La transition écologique n'est pas rentable, elle coûte cher. Voilà, il faut être conscient du problème, c'est que quand vous avez une solution qui est satisfaisante pour le climat, elle est forcément plus chère que la solution toute bête qui effectivement fait de la pollution, émet des gaz à effet de serre.
Donc ça ne peut pas se faire sans les dispositifs d'aide publique.
Ça peut marcher que si on a une aide publique importante ou ce qui est une première manière, ou l'autre manière, c'est de dire, on interdit les véhicules thermiques, et puis on taxe très fortement les véhicules thermiques, et sinon, on ne va pas réussir.
Les voitures vont coûter une fortune à ce moment-là, personne ne pourra s'en acheter une.
Le problème, c'est que la transition écologique, ça a un coût, on va le dire, ça a un coût en termes de pouvoir d'achat. Ouais. Donc soit on ne le fait pas, et on dit, tant pis, on vivra, nos enfants, nos petits-enfants vivront dans un univers beaucoup plus chaud, ils se débrouilleront.
Il ne s'agit pas de dire ça, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui...
Il y a un sacrifice important aujourd'hui, il y a un sacrifice, et deuxièmement, ce sacrifice, il faut le piloter. C'est pas forcément le marché qui va nous donner les bonnes orientations et il faut choisir. Les voitures électriques, oui, mais quel genre de voiture électrique ? Est-ce qu'on favorise les grosses voitures électriques, les petites voitures électriques ? Et là, c'est un choix délicat.
Nathalie, oui, vous êtes en général une fervente défendrice, des fondeuses du marché, enfin de la loi du marché. Est-ce qu'il faut s'en remettre, à cette loi-là.
Je pense qu'effectivement, il faut laisser en tout cas l'initiative à l'innovation, parce que si vous l'empêchez, donc là, à nouveau, plus vous empêchez d'eux, moins vous aurez de solution qui vous sera proposée. Mais la solution, je ne crois pas à la planification verte. Je pense que l'État ne sait pas forcément quelle sera la technologie qui sera la plus intéressante pour l'avenir. Je vois pas pourquoi il le saurait mieux que d'autres. Donc c'est pour ça que je préférerais effectivement m'en remettre au marché. Mais pour ça, il faut effectivement libérer les accès à l'innovation. Donc on en revient toujours à la même chose. En France, le problème, et en Europe de façon générale, c'est que vous avez des marchés relativement réglementés, même pour ce qui concerne l'innovation, et puis vous avez un problème d'accès des conditions au financement. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on a un marché qui est assez étroit en termes de financement, donc ça aide pas,
Est-ce que vous êtes prête à augmenter massivement la taxation du carbone et la taxation des activités polluantes pour que, effectivement, dans ce monde avec des taxations très importantes, on laisse les gens jouer le jeu ?
Pour qu'il y ait un signal prix.
Une fois qu'il y a le signal prix, on peut laisser le marché. Mais s'il n'y a pas le signal prix.
Le problème, c'est que tout va coûter cher. Ça ne fera pas baisser pour autant, ce n'est pas des vases communicants, ça ne fera pas baisser l'offre verte en face.
Non.
Oui, mais l'offre noire brune va coûter plus cher, mais la verte, elle va pas baisser de prix.
Non, mais surtout,
tout sera cher, en fait.
Il y a un coût.
Il y a une rationalité économique à taxer les activités polluantes. Vous vous mettez un prix sur les fameuses externalités négatives. Je parle sous le contrôle d'économistes. Mais on rejoint le sujet de précédent. C'est-à-dire, dans quel contexte vous le faites? En France, comment est-ce que vous voulez augmenter les taxes? Ça n'est juste pas possible. Donc, ça veut dire que si vous voulez augmenter les taxes environnementales, il faut en baisser d'autres. Il faut au moins rendre, sinon vous allez asphyxier l'ensemble de l'économie française. Donc, c'est pour ça que refaire un petit bond en arrière. Le sujet de la réforme de l'État est capital pour mener l'ensemble des politiques, y compris de transition environnementale. Après, je rejoins et j'applaudis Nathalie. Je pense que l'innovation, c'est la meilleure solution une meilleure solution que la planification. Si l'État savait anticiper ce qui arrive demain, alors que pas plus que nous, il a anticipé le Covid, quoi que ce soit, ça saurait. L'État. Mais ce n'est pas une critique de l'État. L'État n'a pas d'informations supplémentaires.
C'est pas dire ce qu'il faut faire, mais c'est fixer un cadre. Dire à telle date, on réduit le temps.
Oui,
et après, on débrouille.
Oui, mais c'est là où il ne faut pas se tromper. Tout le monde nous dit il faut faire la politique. Regardez la TARPA américaine, regardez ce que font les Américains. Mais les Américains ne font pas du tout de la politique industrielle comme nous. Nous, on dit tiens, on pense que le véhicule électrique de telle taille, de telle couleur, avec tant de fauteuils à l'arrière, c'est ça l'avenir. Et on va miser uniquement là-dessus. Les Américains qui font de la politique industrielle vous disent voilà l'objectif et on va subventionner et on va faire de la concurrence pour faire de l'innovation. Ça, c'est une politique industrielle qui marche. Elle a des défauts par ailleurs et les politiques industrielles européennes par ailleurs peuvent avoir des avantages. Mais se dire que parce qu'on est l'État ou parce qu'on est la Commission européenne ou parce qu'on est investi soi-disant de l'intérêt général, on saurait mieux définir que les autres de quoi l'avenir sera fait, ça n'est pas vrai et ça ne peut pas produire les bonnes solutions.
Non, d'accord, mais c'est vrai que pour en venir à ce que proposait Henri, si le gouvernement mettait en place une taxe qui viendrait ponctionner les produits qui ont une forte empreinte carbone pour justement subventionner cette économie verte, ça serait quand même beaucoup plus vertueux.
La dernière fois qu'on l'a fait, c'était les politiques d'augmentation des carburants avec Édouard Philippe, et puis il venait lui demander si ça a donné politiquement. Ouais. C'était pas un gros succès.
Oui, mais parce qu'on n'a pas proposé pas de subventions assez importantes en
face. Avec ce genre d'argument, on va dans le mur.
Mais non, mais avec le genre politique.
Si on ne dit pas aux gens...
On le dit tout le temps aux gens, ils attendent que ça. Même les enfants à l'école, on leur martèle la tradition écologique et tout. Après, il faut que ça passe.
En tout cas, tout le monde est d'accord pour dire qu'elle ne pourra pas se faire sans investissement public, sans argent public. C'est ça qui frappe quand même. C'est qu'aujourd'hui, on parle d'un marché, l'offre verte, l'industrie verte, appelez ça comme vous voulez, qui ne fonctionne pas sans argent public, qui est sous perfusion en quelque sorte.
Oui, mais
on parle d'automobile, du bâtiment, de quoi que ce soit, il faut des deniers publics.
Oui, mais la perfusion, elle peut être financée par le fait qu'on dit aux gens, vous savez, le prix du diesel, le prix de votre fuel, ça va augmenter de façon épouvantable. Donc, si on vous subventionne un changement de chaudière, et cette subvention de chaudière, elle est obtenue grâce à la taxation sur le fuel et sur le diesel. Et il faut convaincre les gens que c'est pas l'État qui se met l'argent dans la poche, mais que ça va directement de la taxation du brun vers le vert. Bon, c'est pas simple à faire.
C'est pas simple à faire. En tout cas, il y a un secteur où là aussi la situation n'est pas simple. L'horreur. On voit que ça investit à vitesse grand V, c'est dans l'armement. On a eu des chiffres publiés ce matin qui font autorité, ceux du CIPRI, qui nous disent que la hausse des investissements l'an dernier a battu tous les records. Plus 6,8%, on est à 2400 milliards de dollars. C'est la hausse annuelle la plus importante depuis 15 ans. Quand on voit ces chiffres, évidemment qu'ils ne réjouissent personne, on comprend bien pourquoi les entreprises aujourd'hui disent que la géopolitique est redevenue le risque numéro un pour leur activité. Erwan.
Alors oui, au-delà de la question militaire, parce que là, en fait, c'est la fragmentation de la mondialisation qui pose plein de défis aux entreprises aujourd'hui en termes géopolitiques. Sur les questions militaires, il n'y a pas besoin de faire un long exposé pour comprendre pourquoi les dépenses militaires augmentent, l'insécurité internationale augmente. On a à nos portes une puissance internationale qui a décidé d'attaquer les démocraties européennes. On a au Moyen-Orient des terroristes qui ont décidé d'attaquer la seule démocratie qui existe au Moyen-Orient. Il est normal que les dépenses en réaction d'armement se augmentent et viennent défendre. Et pour le coup, certes, ça n'est pas une bonne nouvelle, la raison pour laquelle on doit les augmenter, mais enfin, moi je trouve plutôt plutôt une bonne nouvelle de savoir qu'on est capable d'augmenter les investissements militaires quand les démocraties sont menacées, comme c'est le cas. Aujourd'hui, les pays de l'OTAN doivent avoir sont fixés comme objectif 2% de leur PIB. Ouais.
Alors, il y a quasiment aucun pays qui ne le respectait jusqu'à présent. Hein.
Exactement, on n'y est pas encore. En 2023, si je ne me trompe pas, la France n'y était pas. Elle a dit qu'elle augmenterait sa dépense publique en matière militaire. Ah. Mais donc, il y a effectivement, voilà, il y a cette tendance d'augmentation des dépenses. Il y a ensuite un sujet, on va rejoindre les questions de politique industrielle, c'est où est-ce que ça augmente, comment ça augmente et dans quelle mesure l'Europe se positionne bien en la matière. Ouais. Et là, il y a beaucoup de progrès à faire en Europe.
Oui, c'est ça, parce que justement, si on regarde la tête de liste des pays qui affichent les dépenses militaires les plus élevées, on n'est pas sur le podium. Hein. C'est les États-Unis d'abord, la Chine, l'Inde, la Russie et l'Arabie Saoudite. Et à eux seuls, ils représentent plus de 60% des dépenses dans ce domaine. Est-ce qu'on n'est pas complètement à la ramasse quand on voit les volumes? Parce que les États-Unis, c'est quasiment 900 millions.
900 milliards, ouais.
Milliards, ouais. Évidemment. La Chine, 200, 250 milliards. Et la France, 6.
Et la France, on est 9e derrière l'Ukraine.
Voilà. Ouais. C'est normal. Mais c'est un gâchis prodigieux à l'échelle mondiale. Hein. On utilise 2,4% de notre PIB pour ça. C'est quand même tragique.
Du PIB mondial.
D'accord, alors, hein. Quand même, on aurait d'autres emplois plus utiles. On a des pays qui ont des dépenses fabuleuses. L'Algérie, 8% de son PIB. Pourquoi ? Ben c'est pour nourrir des militaires qui, grassement payés, qui s'emparent de la rente pétrolière. On a des pays, ben, naturellement, l'Ukraine, 36%. On peut dire qu'elle a...
Elle a
pas beaucoup de choix.
Là, ouais.
Voilà, on a, c'est quand même pas glorieux.
Hein,
on a l'exemple de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, oui. Qui tous les deux ont des dépenses militaires épouvantables.
Qui est inédit depuis 15 ans.
Voilà, on a la Grèce et la Turquie.
Absolument partout dans la planète.
On a la Grèce et la Turquie qui tous les deux ont des dépenses militaires épouvantables. C'est, disons, c'est assez.
Oui,
c'est
alors, assez alors quand même, s'il y a une.
Et on a Israël qui est obligé d'avoir des dépenses militaires épouvantables et qui refuse, et ayant une supériorité militaire qui refuse toute solution.
Je comprends bien cette notion de gâchis dont vous parlez, Henri, mais s'il y a bien une industrie qui est en train de tirer parti de cette hausse de la demande dans ce domaine, c'est l'industrie française, parce que on a des exportations qui ont augmenté entre la période 2014-2018 comparée à 2019-2023 de 50%, ça fait du pays le deuxième exportateur mondial.
C'est un de nos rares points forts en matière industrielle. Bon. Faut-il s'en réjouir? Content d'avoir un point fort, ben non, parce qu'on serait quand même plus content si c'était d'autres domaines, notamment dans la transition écologique.
Ouais, et puis on a tout un secteur, on en entend beaucoup parler, qui doit repasser en économie de guerre. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, ça profite à nos industriels, mais ils sont loin d'être au niveau de cadence exigé par le conflit en Ukraine. Est-ce que, là on parle des industriels, niveau marché, on voit que pour l'instant ça tient, est-ce que vous comprenez la clémence, je ne sais pas si c'est le mot, mais la clémence des marchés jusqu'ici, depuis 2 ans, face au retour de la guerre ? Aux quatre coins du globe. Est-ce que c'est rationnel pour vous, Henri Sterdyniak ?
Les marchés s'auto-intoxiquent quand vous êtes sur un marché.
Non, mais les marchés anticipent surtout.
Oui, ils anticipent. Et d'abord, il n'y a pas de catastrophe en vue. Et puis ensuite, les marchés ont intérêt à avoir une bourse qui monte. Ça fait monter les bonus, hein. On a appris aujourd'hui on a appris aujourd'hui que nous avions 150 banquiers, si on peut dire, français qui gagnent plus d'un million d'euros par an.
Chez BNP Paribas, Société Générale.
Alors, ils payent beaucoup d'impôts aussi. Hein.
Heureusement.
Oui.
Quand même, il y en a 150. Et donc, les marchés n'ont pas intérêt à dire attention, cette montée des marchés de la bourse totalement fabuleuse, elle repose sur rien, c'est une bulle, quoi.
Nathalie, vous êtes d'accord ?
De toute façon, les marchés, malheureusement, ce que je vais dire, c'est pas très sympathique, mais je veux dire, là où les conflits ont lieu, c'est pas forcément là où... Et ça va pas endommager les endroits où il y a le plus de création de valeur. Bon, Israël quand même un peu, mais visiblement ils ont l'air de s'en sortir. C'est-à-dire que malgré la mobilisation des gens par rapport au conflit,
vous savez que la note a été dégradée, hein, quand même.
Oui, elle a quand même été, parce qu'elle est quand même en économie de guerre aussi. Enfin, donc c'est pas. Mais bon, ils s'en sortent pas trop mal par rapport à leur situation et à leur tension.
Mais la question, c'est l'embrasement. Bah, en Europe, au Moyen-Orient, visiblement là-dessus pour l'instant.
Oui, exactement. Du pétrole qui se maintient. Exactement. Il y a effectivement visiblement.
On craint pas ce scénario.
Quand vous écoutez les. Bon, je ne suis pas une professionnelle de la géopolitique, mais effectivement, quand vous les écoutez, il y aurait. Enfin, on est plutôt dans une espèce de situation où tout le monde joue la transparence, en fait. Ouais. On déstabilise par la transparence. Donc, on dit ce qu'on va faire. Ouais. Bon. Parce qu'aujourd'hui, néanmoins, malgré tout, je pense qu'il y a trop à perdre si on entrait dans un conflit hyper violent.
Erwan, le mot de la fin.
Non, juste pour dire deux choses. D'abord, un, les marchés, ils préfèrent quand c'est la paix et que le commerce mondial se porte bien et de manière fluide, hein, de toute façon. Et ensuite, l'enjeu pour l'Europe, c'est de consolider son secteur. Vous savez que les Américains, pourquoi ils sont aussi forts, c'est qu'ils ont un modèle, je caricature, mais un modèle d'avion, un modèle de char, un modèle de je ne sais pas quel autre appareil. Et nous, on en a pas 27, mais on en a un grand nombre. Donc, il y a un sujet de consolidation pour que l'Europe soit capable de poursuivre son effort de défense.
C'est ce qu'on essaie de faire avec les prochains avions et blindés. Hein,
oui, exactement. Alors, si les marchés ont tout intérêt à ce que la paix règne, ce n'est pas forcément le cas des gouvernements. Parce que regardez l'économie américaine, elle s'en sort quand même largement florissante. Elle vend du gaz.
En fait, tout le monde s'en sort bien, sauf l'économie européenne.
Et oui, l'économie russe s'en sort aussi très bien.
La Chine, ouais. D'ailleurs, quand on voit le classement, vous en parliez tout à l'heure, États-Unis et Chine sont de loin les plus grands dépensiers et sont aussi de loin les plus grandes économies. Est-ce qu'il y a un lien avéré entre puissance militaire et puissance économique ?
Bah oui, ils sont quand même les plus grands dépensiers parce que ce sont des grosses économies.
Non, mais est-ce que les États-Unis, la puissance militaire entretient la puissance économique ?
Les États-Unis dépensent 3,4% de leur PIB. Nous, on dépense 2%, mais du coup, ils peuvent dépenser 15 fois de plus que nous. Donc, à la fois, ils dépensent plus que nous et ensuite, ils sont plus larges. Alors, et c'est pareil pour la Chine.
Oui.
La Chine, bon.
Oui, mais avec un très beaucoup, grand écart très entre les dépenses chinoises et les dépenses américaines. 200 milliards versus 900.
Ah oui, mais
il y a un écart considérable entre les États-Unis et la Chine.
La Chine n'a pas les mêmes enjeux, notamment évidemment avec le conflit qui se profile vers Taïwan.
La Chine ne dépense que de 1,7% de son PIB. Ce n'est pas un pays très dépensier en matière de militaire, mais simplement c'est un grand pays.
Même s'ils essayent de remonter la pente, entre guillemets, puisque ça fait 29 ans d'affilée qu'ils relèvent leurs dépenses militaires.
Oui.
Voilà, ils sont loin de rattraper les États-Unis, mais enfin, on voit que l'effort est constant. Allez, 19h53, c'est l'heure déjà des arrêts de jeu. Il n'y a pas de pénalty, mais il y a des arrêts de jeu en tout cas. Et l'extra time de Good Evening.
L'extra time. Alors, c'est 30 secondes.
Ah oui, 30 secondes.
30 secondes, c'est la règle impitoyable de cette émission.
Oui.
Très bien. Moi, mon sujet est lié à celui qu'on vient d'évoquer, puisque c'est dans le rapport du FMI, il est fait mention de la fragmentation de la mondialisation, qui est un enjeu qui ne cesse de croître et qui devient, parce qu'on multiplie la segmentation des normes, devient un enjeu pour les entreprises. Donc, mon point d'attention, c'était la régulation, la norme va devenir, au-delà, pour des raisons géopolitiques, de plus en plus un enjeu économique demain pour le développement des entreprises. Et donc, il y a beaucoup à faire en la matière, à suivre et à regarder au-delà à l'OMC, mais au-delà aussi.
Ah bah à l'OMC il se passe plus rien, ça m'étonnerait que ce soit là-bas qu'on regarde. En tout cas, c'est devenu une priorité pour la France et l'Europe, effectivement, cette question des normes. Nathalie.
Eh bien moi en fait je vais c'est un petit coup un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule, on le prendra comme on veut. C'était une petite histoire drôle dans le début de réglementation des crypto-monnaies où en fait il y a des listes noires qui sont établies de certains sites et en fait il se trouve que un qui était sur la liste noire avait un stand en plein devant tout le monde à la Paris Blockchain il y a 15 jours, donc c'est très drôle de voir à quel point le régulateur ne sait pas en fait mettre en application.
À quel point le régulateur ne régule
noire,
pas.
Liste noire de qui, pardon?
Des sites qui
mais françaises.
La liste, oui, la liste au niveau de l'AMF, oui.
Ah, oui.
C'est très drôle de voir, oui.
Et on donne le nom ou pas?
Non, je ne ferai pas jusque-là.
Bon, j'ai pensé sur Internet. Henri Sterdignac, le mot de la fin.
Ben moi, c'est un coup de gueule, c'est contre l'union des marchés de capitaux.
Ah,
parce
oui,
forcément. Voilà, parce que le gouverneur de la Banque de France a l'air de dire, c'est le.
L'alpha et l'oméga.
C'est l'alpha et l'oméga. Il y a un certain nombre de journalistes dans Le Monde, par exemple, ou dans Les Échos, qui ont l'air effectivement d'y croire, qu'effectivement, on va développer l'économie européenne et puis la transition écologique avec cette union des marchés de capitaux, sachant qu'on a déjà la liberté de circulation des capitaux, sachant que l'objectif c'est de développer l'attitrisation en Europe, et on a vu ce que ça donnait aux États-Unis, et sachant que l'idée c'est que les marchés seraient plus efficaces que les banques, ce qui est pas du tout évident.
Non, mais ça donnerait une puissance financière plus importante à l'Europe, évidemment. Mais bon,
vous n'y croyez pas. En tout cas, on rouvrira
le débat. C'est un autre débat. Voilà, modèle d'efficacité.
On rouvrira le débat jeudi, puisque c'est jeudi que Christian Noyer, l'ancien gouverneur de la Banque de France, remettra son rapport sur l'union des marchés de capitaux. Nathalie Janson attend ça avec impatience. Merci à tous les trois. Henri Sterdignac, Nathalie Janson, Erwan Lenoir et merci.
Audrey Tcherkov, merci. Merci à vous, Thomas Asportas, Tom Sass, comme on vous connaît sur les réseaux sociaux.
Sur les réseaux sociaux. Les gens ne parlent que de ça.
Le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.com et puis sur toutes les plateformes. Et bien sûr, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures.
Absolument. Notre appli BFM Business pour ceux qui ne l'ont pas encore téléchargé. Dans un instant, toute l'actu de la tech en direct avec Frédéric Simotel, Tech & Co. Bonne soirée.
À demain.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.